Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. J'ai intitulé le message aujourd'hui « Jésus t'appelle ». J'aurais pu mettre « Jésus t'interpelle » et vous allez comprendre pourquoi. Quelle est ta réponse ? À partir de Marc chapitre 1 et on va s'intéresser ce matin aux versets 16 à 20. Lors de notre conversion, nous avons coutume de dire, et c'est vrai, je l'espère, que nous avons donné notre vie à Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur. Certains se souviennent même précisément du moment et de la date. C'est à ce moment-là que nous estimons que nous sommes devenus chrétiens ou chrétiennes. Je suis devenu chrétien à ce moment où j'ai donné ma vie à Christ. Mais certains, peut-être d'entre nous, sont devenus plus que chrétiens, le stade au-dessus. Peut-être sont-ils devenus des disciples de Christ. Waouh ! La promotion. Mais est-ce que cette distinction existe ? Ben, bibliquement parlant, en fait, non, elle n'existe pas. Pourtant, notre société marque parfois cette distinction. Il y a ceux qui sont chrétiens, et puis il y a les disciples, un peu comme un stade supérieur. Et toi, qu'est-ce que tu es ? Est-ce que tu es un chrétien du point de vue du monde ? Ou est-ce que tu es un chrétien du point de vue de l'Écriture, c'est-à-dire un disciple du Seigneur ? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Et on va voir ce matin pourquoi. À un moment donné de ta vie, le Seigneur t'a appelé à le suivre. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Ou qu'est-ce que ça doit changer ? Parce qu'il y a peut-être des changements encore à venir. Alors, pour répondre, on va regarder l'appel des premiers disciples du Seigneur en Marc 1, versets 16 à 20. Mais avant de regarder ce texte, on va un peu regarder le contexte de ce texte. Ce sont les versets qui précèdent. Je ne les ai pas affichés, mais ce sont les versets 14 et 15, et je vais en faire la lecture. « Lorsque Jean, donc c'est Jean-Baptiste, eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'Évangile. » Ça, c'est le contexte du texte qui va nous intéresser. Alors, si vous avez déjà lu votre Bible, ou au moins si vous avez déjà lu les quatre évangiles, ben Marc, il a une particularité. Et parfois, il est bien aimé pour ça, c'est qu'il est court. Oh, il n'y a pas des tonnes de chapitres à lire, il n'y en a que 16. C'est le plus petit des trois évangiles. Et puis, ce qu'on aime bien, c'est qu'il va droit au but. Il ne passe pas par des détours, il est très rythmé. Il y a beaucoup de terminaisons, aussitôt, tout de suite, ça va, ça avance avec Marc, c'est rythmé. Mais pour autant, ces développements courts sont riches, riches en détails quand on s'en penche dessus et quand on les regarde un peu plus attentivement. Alors Jésus prêche la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu, nous dit le texte. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Donc, compte tenu de ces données-là, il y a un ordre, une exhortation qui est donnée. Changer, Matthieu ajoute radicalement, changer et croyez, ayez la foi. C'est plus que simplement croire que Jésus a existé et puis c'est tout. On va y revenir. Et cette proclamation-là du Seigneur, en quelques versets, comporte plusieurs considérations nécessaires pour comprendre l'appel du Seigneur pour ceux qui le suivront. Premièrement, fait important, en fait, elle révèle l'autorité de Jésus. Et oui, il parle au nom de Dieu. En fait, l'appel qu'il donne là ne vient pas de n'importe qui. Et on va voir que ça a un impact sur la suite. Deuxième élément, c'est que Jésus proclame l'inauguration du règne de Dieu. Et donc, de fait, la réponse que l'on donne à l'appel doit contenir l'acceptation de ce roi et de son règne sur ceux qu'il appelle sans condition. Et le sans condition, il va être important là aussi pour la suite. Troisième élément, c'est que Jésus commence à constituer une communauté de disciples avec une mission donnée d'emblée. Porter la même proclamation avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous allons l'imiter, reprendre son message et le proclamer avec son aide, avec lui. À partir de ce qu'on vient de voir et du texte que nous allons lire maintenant, je nous propose alors trois étapes de l'appel de Dieu. La première étape, c'est la plus courte, c'est le cadre de cet appel. La deuxième étape, c'est l'appel lui-même. On va voir ce qu'il comprend. Et la troisième étape, eh ben, c'est la réponse à donner à l'appel de Dieu. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 1, versets 16 à 20, et je vais en faire la lecture. Un jour, comme il, donc bien vu qu'on vient de le voir dans le contexte, on parle du Seigneur, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Pourtant, poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient des filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. C'est un texte assez connu, hein, notamment l'appel, le contenu de l'appel « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Qui a d'ailleurs le titre d'un livre de Spurgeon. Nous avons donc deux cadres ici, que j'ai mis en couleur, ça ne ressort pas trop, c'est en bleu. Le cadre pour Simon et André, et le cadre pour Jacques et Jean, qui sont deux paires de frères. Et on voit que plusieurs infos nous sont rapportées. D'abord, ce sont des pêcheurs professionnels. Alors on ne parle pas de pêcheurs autant de ceux qui font le pêcher, hein, vous aurez compris, on parle du métier. Ils pêchent des poissons, et ce sont des pêcheurs professionnels qui sont au travail, ils sont au boulot. Le deuxième élément qu'on a, qui est important, c'est qu'ils sont sur le lac de Galilée. Et le lac de Galilée est réputé pour sa diversité de poissons. Il y en a pas mal, de toutes sortes, et la pêche est souvent bonne. Ce qui veut dire que leur travail est rentable. Prospère. Ça marche bien. Il fait bon être pêcheur sur le lac de Galilée. C'est une bonne entreprise. Et nous sommes face aussi, ici, à deux personnes, deux types de personnes qui sont complètement ordinaires. C'est un métier, on va dire, lambda, métier manuel, qui marche bien, certes, mais le Seigneur n'est pas en train de s'appeler là à des hauts fonctionnaires qui ont une qui ont fait de grandes écoles, qui ont très bien étudié, qui sont des intellectuels. L'élite, en quelque sorte, non. Il s'adresse à des gens ordinaires. Ce qui montre que le Seigneur ne nous choisit pas en fonction de nos compétences ou de nos qualités. Il nous choisit sur un élément, un seul, la grâce. La grâce qu'il nous accorde. Et ça, c'est important de le considérer. Dieu appelle uniquement par grâce. Et ses disciples, en devenir, vont passer d'un métier manuel à une nouvelle vocation, une vocation de la parole. Ils vont complètement changer de type de vocation. Ils passent de pêcheurs de poissons à proclamateurs de l'évangile de Jésus-Christ. Et cela montre que la proclamation n'est pas réservée, là encore, à une élite. Elle n'est pas réservée qu'à ceux qui ont fait un institut biblique ou une faculté de théologie. Elle n'est pas non plus réservée à ceux qui ont 20 ans de vie chrétienne, qui ont roulé leur bosse et qui ont l'expérience. Non, nous sommes tous concernés par la proclamation de l'Évangile, quelle que soit notre condition professionnelle, quelles que soient les études que nous avons faites. En fait, si le Seigneur s'est révélé à nous, nous avons déjà de la matière. Dieu nous appelle tous. Dieu nous appelle tous, quelle que soit notre catégorie. Maintenant qu'on a regardé le cadre, on va regarder l'appel. Alors l'appel de Jésus, c'est étonnant, dans le texte, on tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Alors Luc, dans son texte parallèle, dans son évangile, ajoute que cet appel est lié à un miracle. Vous savez, il demande Pierre de jeter les filets, et puis oh, il récupère tellement de poissons, et puis c'est là qu'il lui annonce « Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes ». Mais Marc ne rapporte pas le miracle en lui-même, mais il rapporte le contenu de l'appel, et c'est ce qui nous intéresse. On va le décortiquer. Jésus leur dit « Suivez-moi, suivez-moi ». C'est le langage du discipulat. Être disciple de Jésus, c'est marcher à sa suite, c'est marcher avec lui, être à ses côtés. C'est considérer qu'il est le guide qui nous conduit sur le bon chemin. Et n'est-ce pas d'ailleurs ce que dit le Seigneur lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est celui qui nous guide et donc c'est celui que l'on suit. « Suivez-moi », dit-il. C'est le chemin de la vie, certes, mais pas uniquement. C'est aussi le chemin de la mission que le Seigneur nous confie, mission qu'il nous a montrée de par sa parole et ses actions, mission qu'il a décrit au verset 15 juste avant. « Suivez-moi ». Tout part de Jésus. C'est lui qui appelle. C'est lui qui fait grâce. Et c'est encore lui qui transforme. C'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui fait. C'est important parce que « Suivez-moi », c'est un appel à le suivre lui. Pas n'importe qui. Celui dont l'identité nous est donnée dès le premier verset de Marc. Regardons Marc 1, verset 1. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'identité nous est donnée. Alors, petite parenthèse, ce verset-là, c'est la raison pour laquelle, quand on parle de l'évangile aux musulmans, on n'utilise pas l'évangile de Marc. On ne donne pas, tiens, commence par lire l'évangile de Marc. Verset 1, il va fermer le livre. Parce que pour lui, Jésus, Fils de Dieu, ce n'est pas possible. Je ferme la parenthèse, mais petite anecdote, on m'a toujours informé, ne donne jamais par commencer l'évangile de Marc. Sinon, verset 1, c'est fini, la lecture. Ça n'ira pas plus loin. L'identité nous est donnée, ce n'est pas n'importe qui appelle. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir eu le contexte de l'autorité de celui qui appelle. Il ne s'agit pas ici d'être disciple d'un simple philosophe. Parfois, on entend certains courants philosophiques. « Oui, moi je suis épicurien, je suis etc. J'aime bien Platon. » Non, il ne s'agit pas ici de suivre un philosophe ou de suivre un homme politique. Il parle bien, ce Jésus. On va le suivre. Non. Il s'agit d'être disciple de celui par qui tout est venu à l'existence et pour qui tout a été créé. Être disciple de celui par qui tout est venu à l'existence et pour qui tout a été créé. C'est Colossiens, ça. En fait, si Jésus te dit « Suis-moi », c'est une grâce qu'il te fait. Marcher à la suite du Fils de Dieu en personne, c'est pas n'importe qui. Quelque part, est-ce que ce n'est pas le souhait le plus grand qu'un être humain puisse rêver ? Que Dieu lui dise personnellement « Suis-moi ». Sauf que ce n'est pas un rêve. Dieu t'appelle vraiment à le suivre. Dieu t'appelle vraiment à le suivre. « Suis-moi et je ferai de vous. Je ferai de vous. » Littéralement, je vous ferai devenir. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de transformation. C'est une invitation à entrer dans un processus de formation en vue de la mission que Jésus nous confie. C'est ça, être disciple. Je vous ferai devenir. Suivez-moi. on entre dans un processus. Et là encore, tout part de Jésus. C'est lui qui fait des disciples. Disciples qui feront aussi à leur tour des disciples. Hein, Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples, etc. et baptisez-les. Non pas, fait intéressant, non pas des disciples d'eux-mêmes. Ah, moi je suis disciple de Jonathan, moi je suis disciple de Béa. Non, disciple du Christ. C'est lui que nous suivons. Il n'y a qu'un seul chef, qu'une seule tête à l'Église, c'est le Christ. Devenir disciple n'est pas un simple statut obtenu directement. Ça y est, j'ai fait le plouf dans l'eau là, et c'est bon, je suis un disciple. Non. Être disciple, c'est une continuité, c'est un apprentissage qui dure toute la vie, c'est apprendre du Maître Jésus-Christ. Autrement dit, un apprentissage qui comprend, du fait de notre nature imparfaite, des erreurs. Et oui, le disciple tend à apprendre du Maître pour accomplir la mission qu'il lui confie. Mais parfois, dans cet apprentissage, le disciple se trompe. Apprendre du Maître va bien au-delà, d'ailleurs, de la mission. C'est une manière d'être, une manière de vivre complètement transformée que ce que nous connaissons dans notre monde. Et le Maître nous a appris à vivre la grâce par laquelle il nous sauve, c'est-à-dire à considérer nos propres erreurs et à savoir demander pardon. Pour celui qui est lésé, à savoir pardonner. C'est ça être disciple. C'est pas facile, hein, mais c'est nécessaire. Le Seigneur l'a fait. L'apprentissage montre que le niveau n'est pas atteint, mais que c'est un cheminement à la suite de celui qui, lui, par contre, est parfait, qui ne fait pas d'erreur. J'ai nommé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, évidemment. Alors pour autant, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse, qui consisterait à dire « ben, je dois encore apprendre, donc je ne fais pas, tant que je n'ai pas atteint un certain stade. » Oui, mais c'est quoi le stade ? C'est quand qu'on l'atteint, le stade. Être disciple, c'est un apprentissage de toute la vie qui refait beaucoup d'éléments, y compris la sanctification. Mais parfois, le Seigneur nous place dans des situations où nous pouvons partager ce que nous avons vécu avec le Seigneur, partager l'Évangile. Et parfois, ce petit témoignage que l'on pourrait juger d'anodin peut avoir de grandes conséquences. Pas par rapport à nous, mais qui vous dit que le Seigneur ne saura pas se servir de ce petit témoignage pour faire de grandes choses? Et ça, nous n'en savons rien. C'est pour ça que nous lui faisons confiance. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'hommes. Alors évidemment, il y a là un parallèle avec le métier de pêcheur, vous l'aurez compris. Le métier de pêcheur de ceux à qui le Seigneur s'adresse. En fait, c'est intéressant parce que Jésus se base sur leur réalité. Il parle leur langage. Vous pêchez des poissons, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et par ce langage, il les appelle en fait à changer de vocation. Au contact de Jésus, ils vont changer de vie. Changer de vie. Ils vont passer de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Ils vont faire autre chose. Ça va complètement chambouler leur vie. Pêcheurs d'hommes, ça signifie qu'ils vont rassembler des êtres humains autour du Maître en proclamant comme lui le règne de Dieu et le salut. Tiens, verset 15, ce que le Seigneur a fait. En fait, il s'agit de répéter l'appel du Seigneur à le suivre lui. De la même manière que quand dans Matthieu, il dit « Vous êtes la lumière du monde », en fait, nous ne reflétons que la lumière de Christ, de la même manière que la lune reflète la lumière du soleil. Il en est de même. Nous rappelons le message même du Seigneur lui-même. Et c'est une grâce d'être porteur de la bonne nouvelle. Même si, reconnaissons-le, ce n'est pas toujours facile et que ça peut susciter des oppositions, parfois dures. Hein. Mais souvenons-nous d'une chose, ces oppositions-là, le Seigneur les a vécues avant nous. Il le sait, il les a même vécues jusqu'au bout, parce qu'il en est même mort. L'opposition ultime est mort d'une manière plus que brutale en plus. Le maître sait. Ça suscite des oppositions, mais pour autant, c'est une grâce d'être porteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En général, quand on a une bonne nouvelle, on a envie de la partager. Oh, tu sais pas la meilleure ? J'ai un truc incroyable à te raconter. Et puis pourtant, on est porteur de cette bonne nouvelle et puis parfois, on n'est pas trop enclin à la partager. On préfère préserver peut-être nos relations, etc. C'est dommage. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. En fait, c'est la bonne nouvelle. C'est la meilleure chose qu'on puisse offrir à quelqu'un. Tu te rends compte ? J'ai la nouvelle qui va te permettre, si tu l'acceptes, d'obtenir la vie éternelle. Je serais curieux de savoir qui n'est pas intéressé par le fait d'obtenir la vie éternelle. Quand on répète l'appel de l'évangile du Christ, il faut bien garder à l'esprit qu'on n'appelle pas pour nous et qu'on ne convainc pas par nos propres efforts. J'en discutais ce matin. C'est Dieu qui œuvre en nous utilisant. Nous sommes des outils entre ses mains. Mais c'est une grâce, là encore, parce qu'il nous fait participer à son œuvre. J'ai toujours entendu, et je crois que c'est vrai, cette remarque qui dit « En fait, le Seigneur, il pourrait très bien se passer de nous. Et il ferait les choses bien mieux que nous. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, il se plaît à nous utiliser, nous, des êtres imparfaits. C'est une grâce, là encore, qu'il nous accorde. Dieu se plaît à nous utiliser, nous des êtres imparfaits, mais des êtres qu'il aime et qu'il sauve. C'est une grâce, considérons-le comme cela. C'est Dieu qui œuvre en nous utilisant, en nous faisant participer à sa grâce, mais attention, attention à la tentation des résultats. Ah, moi ce mois-ci, j'ai converti X personnes. On n'est pas là pour faire de la productivité, hein. C'est le Seigneur qui convainc. Il n'y a pas d'objectif à rechercher. Tant mieux si le Seigneur nous a utilisés et qu'il soit glorifié si ce n'est pas le cas quand même. Attention à la tentation des résultats. On touche ici un élément majeur de l'Église. Une de ses missions, faire des pécheurs d'hommes. Oui, chaque disciple a un rôle différent dans le fonctionnement global de l'Église. On le sait. Romains 12, par exemple, où Paul parle de l'Église comme d'un corps. Il y en a un qui a un œil, l'autre il a une oreille, etc., etc. Nous avons tous une fonction dans le corps et on va y revenir prochainement quand on va parler des services dans l'Église. Gardez bien ça à l'esprit. Oui, nous avons tous des rôles différents dans le fonctionnement global de l'Église, c'est vrai, mais nous avons tous une mission commune pour autant. Et cette mission commune, c'est celle d'atteindre notre monde et de présenter la bonne nouvelle. Ça, c'est une mission où nous sommes tous concernés. Pas quelques-uns, pas seulement les anciens de l'Église, ou le pasteur, ou les diacres. Nous sommes tous concernés par cette mission. En fait, c'est une vision d'Église, ça. On m'a interpellé il y a quelque temps pour savoir, mais pourquoi une Église, en fait, a besoin d'une vision ? Parce que quelque part, la vision de toutes les églises, c'est l'Évangile. C'est vrai, en fait. Pourquoi une église devrait faire différemment d'une autre ? Nous avons tous le même but, atteindre notre monde et présenter la bonne nouvelle. J'y reviendrai plus tard parce qu'on a choisi une date pour vous présenter la vision de l'église que nous portons. Maintenant qu'on a vu le cadre et l'appel, on va regarder la réponse. Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Ils laissèrent Zébédée leur père dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Waouh, ça n'a pas traîné, hein. la réponse des disciples en devenir est surprenante. Pourquoi ? Parce que ce Jésus de Nazareth, il n'est pas encore connu, là. Il n'est pas encore connu. Mais force est de constater qu'il est convaincant. Ils abandonnent leur filet. Imaginez la situation pour vous, nous aujourd'hui. Vous êtes au travail, vous êtes au bureau, devant votre ordinateur, vous êtes en train de répondre à un mail. Toc, toc, toc. Suis-moi, j'ai une nouvelle vocation pour toi. Ok, on laisse le mail. Allez. C'est ce qui se passe là. Hein. C'est exactement ce qui se passe. Il n'y a pas de « attends, on finit, on va ranger le bateau et puis après on te suit ». Non, non, non. Ils laissèrent et ils s'en vont. Ils laissent tout en plan. Force est de constater que ce Jésus est convaincant. Ils abandonnent leur filet. Ce détail revêt une signification forte. En fait, ils laissent leur outil de travail. Ils acceptent le changement de vie. Ils changent du tout au tout. D'un coup. C'est fort. Pour Jacques et Jean, Marc ajoute qu'ils laissent derrière eux leur propre père, en plus de l'entreprise familiale et leur travail de pêcheur. Waouh ! Si ça, c'est pas un changement radical, je ne sais pas ce que c'est. Hein. En fait, le prix qu'ils acceptent de payer pour ce changement est particulièrement élevé. Ils lâchent tout. Ils renoncent à un avenir prometteur et une carrière déjà bien engagée. Ah oui, on le sait parce que ils sont pêcheurs sur le lac de Galilée, on l'a dit, ça marche bien ça. Et puis en plus, leur père a visiblement des ouvriers. Donc en plus, c'est une entreprise qui ça fonctionne bien. Ils laissent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Notons l'impact culturel de l'époque. Eh ouais, parce que là, on est en Israël, là. Ça veut dire qu'est en place le décalogue, les 10 commandements. Et il y a quoi dans les 10 commandements ? Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là, avec leur père ? Honorer ses parents, c'est aussi assurer la pérennité du commerce paternel. Eh ouais, là, il y a un truc, là. Il se passe quelque chose, là. En fait, leur réponse étonnante ne manifeste pas un manque de respect envers leur père, mais plutôt un changement d'importance des priorités. Là, il y a un truc qui est arrivé dans le top, nommé urgent, c'est au-dessus de tout. On laisse tout. La priorité, elle est là. On est obligé. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Remarquons que le texte dit « aussitôt ». Ah oui, Marc, c'est rythmé. Hein. La réponse, elle ne tarde pas. Cette réponse rapide rompt avec les conventions sociales qui relèguent au second plan les attentes familiales légitimes. Eh bien, ça dit quelque chose. Celui qui les appelle là, ce Jésus, il détient une autorité toute particulière. Ce n'est pas n'importe qui. Cette autorité du maître, elle pèse lourd, y compris dans leur vie personnelle. Eh oui. Marc ne dit pas qu'ils ont eu des discussions pour peser le pour et le contre. « Ah, qu'est-ce que t'en penses ? On y va, on n'y va pas ? Oui, mais attends, parce que si on y va, attention, pour l'entreprise, comment on va faire ? Si ça ne marche pas, c'est quand même risqué. » Il n'y a pas de ça. Aussitôt, ils laissent tout, ils s'en vont. Il n'y a pas d'hésitation. Alors, vous me voyez peut-être venir. Est-ce que nous aussi, nous reconnaissons l'autorité de Jésus sur notre vie ? Pour le suivre, sans poser de conditions, et accepter son programme à lui plutôt que notre programme à nous. Son programme à lui plutôt que le sien. Qu'en est-il ? En tout cas, Simon, donc, qui sera Pierre, vous le savez, Simon, André, Jacques et Jean, eux suivirent Jésus, tant littéralement que métaphoriquement, parce qu'ils deviennent des disciples de leur nouveau maître. Et cette réponse à l'appel du Seigneur doit comprendre un engagement total, mais implique aussi, on vient de le voir, des renoncements. Et ça c'est peut-être le plus difficile. Parce qu'il y a des choses qu'on a envie de garder. On n'a pas envie de tout plaquer pour le Seigneur. Ou alors on a envie, mais c'est dur de laisser. C'est dur de laisser. Et oui. Que Dieu nous appelle à le suivre, ça on l'a vu, c'est une grâce et c'est super. Waouh, Dieu lui-même m'appelle. Pff, quel privilège. Mais le prix de l'engagement et du renoncement, sommes-nous prêts à le payer ? Sommes-nous prêts à le payer ? Être disciple de celui qui nous offre par grâce la vie éternelle bouleverse toute notre vie. Ça, c'est un fait. J'espère en tout cas que ça vous a bouleversé. Parce que c'est source d'une joie immense et une joie différente de celle que le monde veut nous offrir. Mais ce choix, il implique un changement d'orientation radical. Alors, pas forcément un changement professionnel, hein. Vous l'aurez compris. Je ne suis pas en train de ce matin de vous dire « quittez tous votre travail ». Non, 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 non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. Un changement d'orientation pour inscrire notre vie dans le cadre de la grande mission. Je disais dans un commentaire que ça implique bien plus que d'être fan. Ah, oh, moi, je suis fan de Jésus. Mais être disciple, ce n'est pas juste être fan de Jésus. C'est plus que ça. Ça implique de l'avoir pour maître et pour roi et de le suivre comme tel. Car tout disciple, quel qu'il soit, vit pour son Seigneur et pour l'évangile qu'il apporte à tous ceux qui doivent l'entendre. En tout cas, j'espère que c'est votre cas. Et si ça ne l'est pas, réfléchissez-y. En conclusion, de bien des manières, Dieu appelle toujours aujourd'hui. Et il nous avertit. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'évangile. Mais cet appel n'attend pas une réponse passive. Oui, c'est bon, j'ai accepté. Jésus est le Fils de Dieu, il m'a sauvé, voilà. C'est pas juste ça. Hein. C'est une réponse active qui implique un changement radical de vie. Ne plus vivre pour lui, notre monde, nos désirs, mais vivre pour le Seigneur, notre Maître. Ce changement radical, c'est celui de devenir un disciple du Christ, qui se concrétise dans le fait de marcher dans les pas du Maître, de se nourrir continuellement de son enseignement et de son exemple de vie qui est consigné dans l'Écriture. Lisez Marc, 16 chapitres. Allez, en un après-midi, c'est plié. Lisez Marc. Deuxièmement, d'apprendre du Maître avec patience et persévérance dans la grâce de son pardon et de son amour. Troisièmement, de placer l'évangile de Jésus-Christ au centre de nos préoccupations et de renoncer à tout ce qui nous en détourne avec sagesse et discernement. Matthieu 6, 33, « Faites du royaume de Dieu et de sa justice votre préoccupation première. » Et toutes les choses donc, qui parlent du confort matériel, de l'argent, de la nourriture, des vêtements, etc., vous seront données en plus. Est-ce que l'on fait de l'Évangile notre préoccupation première ? C'est pas évident, hein ? Moi, il y a des jours où je reconnais que c'est pas le cas. Je passe pas l'Évangile toujours en première place. Des jours oui et des jours non. Des jours avec et des jours sans. Mais c'est un cheminement, un apprentissage. Alors, face à l'appel du Seigneur que tu entends ce matin, il y a deux situations possibles. Soit tu n'as pas encore répondu à l'appel du Seigneur. Peut-être que tu t'interroges, te questionnes. Ah, je ne sais pas trop encore. Suivre le Seigneur, oui, ça implique des choses. Hein. Alors ce matin, réfléchis à la réponse. Pas en donner une tout de suite. Mais si c'était quelque chose que tu avais mis dans un coin de ta tête, ressors-le du tiroir et remets-le d'actualité dans tes journées. Réfléchis-y. La deuxième situation, c'est que tu as déjà répondu à cet appel. Peut-être même il y a des décennies que tu as accepté de suivre le Seigneur. Alors, regarde un peu ta vie et pose-toi la question. Qu'est-ce qui a changé depuis que ? Et je suis sûr que tu vas trouver des choses très intéressantes. Avant, j'étais comme ça. Et maintenant, je suis plus comme ça. J'ai évolué, j'ai grandi dans l'apprentissage avec le Seigneur. Et puis, allons plus loin. Qu'est-ce qui doit encore changer dans ta vie? Cible-les, essaye de travailler dessus. Prie le Seigneur pour qu'il t'aide à placer son royaume et sa justice au centre de tes préoccupations. Alors, peut-être en étudiant le texte ce matin, tu te dis « Oui, bon, c'est bien gentil, mais l'appel là ici de Simon, André, de Jacques et Jean, eh, ça va être des apôtres du Seigneur. Hein. » Donc quelque part, ça c'est l'appel pour les apôtres. Nous, on n'est que disciples. Sauf que si on va plus loin dans l'évangile de Marc, on se rend compte que cet appel n'est pas limité qu'aux apôtres. Nous sommes tous concernés. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Amen.